Nos voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Hier, nous n'avons pas quitté des yeux les adjectifs possessifs, nos voleurs, souvenez-vous de ces brigands, et les pronoms possessifs, ces magiciens qui font disparaître le nom, le mien, le tien, le leur. Eh bien aujourd'hui, nous restons dans le langage avec celui qui nous avait plutôt habitués aux maths. Bonjour Gérard Sans Faute.
Bonjour à tous, bonjour Emmanuel.
Ah, je vous sens un peu lointain, là, parlez bien dans le téléphone, devant le téléphone plutôt que dans. Alors Gérard, vous aimez les abeilles, ça on le sait maintenant tous. Les problèmes mathématiques aussi, vous nous régalez avec vos problèmes de maths, mais aussi l'écriture. Et aujourd'hui, de l'écriture et de l'imagination, ou comment inciter les enfants à écrire dès qu'ils le peuvent, c'est ça?
Ah oui, l'écriture, c'est quelque chose qui concerne tous. Hein. C'est pas l'idéologie de l'écrivain qui fait son écriture parfaite directement. Écrire, ça s'apprend. Donc, on va s'entraîner à écrire aujourd'hui. Et vous allez tous écrire pour vous présenter en positif aujourd'hui.
Voilà.
Parce que nous avons envie de mieux vous connaître. Moi qui vous parle, je ne vous connais pas et j'aimerais mieux vous connaître.
Alors,
c'est quelque chose. Ouais.
Oui, et voilà. J'espère bien sûr, les enfants, vous avez préparé du papier et surtout, vous allez poster vos feuilles et vos écritures pour que Gérard Sans Faute puisse mieux vous connaître. Et c'est vrai que mettre des mots sur la pensée, c'est un apprentissage essentiel pour développer l'intelligence des enfants, il faut le dire aux parents. Et ensuite, il y aura l'histoire de Motet, le petit footballeur, écrite par Anselme Diocam. Et puis enfin, le coach Didier Acouetté nous rejoindra pour parler des entreprises dans l'après-Covid. Comment gagner des clients en misant sur la stratégie de différenciation après la crise? Il y aura des réponses avec des cas concrets. Et bien sûr, toutes vos questions et vos commentaires au 33 1 84 22 71 71. L'émission est réalisée chaque jour, toujours avec l'équipe qui gagne. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même. Et beaucoup de messages sur WhatsApp qu'on nous poste chaque jour, chaque semaine, avec des niveaux très différents d'ailleurs pour une classe unique. Ça s'appelle un peu un casse-tête hein, pour les enseignants.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Bonjour les voisins, je m'appelle Enyege Véron Carmila, je suis au Gabon, j'aime tout ce que vous faites pour nous, j'ai souvent du mal à bien suivre les cours et je n'arrive pas souvent à bien faire les épreuves et je n'ai pas souvent tout le matériel mais je fais beaucoup d'efforts et quand j'écoute l'école à la radio, j'apprends plus vite et bien qu'à l'école. J'aime tout ce que vous faites pour que nous, les enfants, gardons un contact avec l'école. Merci à vous.
Je m'appelle Joshua et je vous appelle du Congo-Brazzaville. Je suis étudiant et je tenais à vous remercier énormément, Madame Sarah Wauquiez, notamment son utilisation très intéressante du théorème de Pythagore pour déterminer la taille d'un mur. C'était très intéressant, j'ai trouvé ça. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire cette utilisation de ce théorème. Et aussi la façon dont Monsieur Sans Faute a quelque peu utilisé l'analyse combinatoire pour déterminer le nombre de boules de chocolat qu'on pouvait former avec trois parfums différents. Ça, si on me l'avait appris à cet âge-là, peut-être que j'aurais compris tout cela en une seule journée. Et je dois dire que même si je suis à l'université, à chaque fois je suis impressionné de nombre de choses que je suis en train d'apprendre ou de réapprendre. Et merci aussi pour les contes, hein, et notamment à Héloïse Auria de les raconter aussi bien. Merci et vive l'école à la radio.
Merci à vous tous pour vos messages. Vous continuez de poster au 33 1 84 22 71 71. Et puis, il y a eu pas mal de messages, Gérard, concernant un problème. Vous vous souvenez qui terminait vos exercices de logique. C'était après l'histoire des boules de glace et les parfums. Il y a eu un problème de pirate dont nous n'avons pas donné la solution. Je vais redonner l'énoncé. Vous vous en souvenez de votre problème de pirate, Gérard ?
Tout à fait, tout à fait. Je l'avais donné même pour les plus grands. Il était plutôt difficile.
Exactement. Alors, je vais redonner l'énoncé. Il est un peu difficile pour les petits, mais je rassure Véronne Carmela. Après, quand on va apprendre à parler de soi et qu'on va faire une fiche pour mieux se faire connaître, Carmela, tu verras, tu arriveras bien à suivre et ça ira très bien pour toi. Alors là, c'est plus pour Joshua et pour les autres qui aiment bien les problèmes de maths. Barbe Rousse et Rackham le Rouge se partagent des pièces d'or. Hein. Barbe Rousse et Rackham le Rouge se partagent des pièces d'or. À eux deux, ils en ont 1426. Barbe Rousse en a 186 de plus que Rackham le Rouge. Donc, à eux deux, 1426. Barbe Rousse en a 186 de plus que Rackham le Rouge. Combien de pièces ont-ils chacun? Alors, Gérard, sans faute, vous nous redonnez une ou deux petites pistes?
Oui, ben, il faut surtout bien se demander de quoi parle le problème. Donc, dans le problème, on parle de deux pirates. Il y a Barbe Rousse et Rackham le Rouge. Et que nous demande-t-on de trouver? C'est combien ils ont de pièces chacun.
Voilà, la part de chacun.
Ce qu'on nous donne seulement comme renseignement, c'est qu'à eux deux, ensemble, ils en ont 1426.
Ouais. Et on sait qu'ils n'ont pas la même chose, ils n'ont pas une part égale, sinon ça serait facile. On diviserait par deux.
Barbe Rousse en a plus, il en a 186 de plus que Rackham le Rouge. Donc il fallait se débrouiller avec ça. Ouais. Donc c'était difficile à trouver.
Ouais. Alors évidemment, si on divise en deux, comme s'ils avaient une part égale, et qu'on rajoute les 186 pour l'un, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas le total. Hein. Donc il faut se creuser un petit peu la tête. Eh bien, une réponse avec un élève qui ne rate aucune émission, et je peux vous dire que ça s'entend, Cocker Ifemi.
Bonjour 7 milliards de voisins, je m'appelle Cocker Ifemi, j'ai 7 ans et je suis en classe de CE2 à l'école Le Berceau des Merveilles à Porte-Novo au Bénin. Quelle est la part de chaque pirate? Je retranche d'abord le surplus de l'ensemble, il me reste le double de la part de celui qui a la faible quantité, c'est-à-dire 1240 que je divise en 2. Pour obtenir la part de ce dernier, soit 620. L'autre ayant 186 de plus que lui, j'ajoute simplement ce qu'il a de plus et ça me fait 806. En conclusion, si Barbe Rousse a 186 pièces d'or de plus que Rackham le Rouge, Barbe Rousse a alors 806 pièces d'or et Rackham le Rouge en a 620. Pour vérifier mon opération, je fais la somme des deux avoirs qui devraient me donner le total de départ, soit 620 plus 806 égale 1420. Merci Emmanuel, aux voisins et surtout à Gérard sans faute. C'est Cocker Ifemi.
Ouais, le total, c'est bien 1426, hein, sa langue a fourché. Est-ce qu'il a bon, Gérard ?
Ah ben oui, et en plus, il avait une méthode très astucieuse et il a su se débrouiller avec des grands nombres, hein, parce qu'il était assez jeune, je crois. Hein.
Oui, 7 ans, en CE1.
Ah ben oui, avoir une méthode aussi astucieuse et trouver avec ces grands nombres, c'est pas mal. Hein.
Ouais. Et ben voilà, on a des petits génies à l'école, à la radio, mais évidemment, les portes sont grandes ouvertes pour tout le monde et vous êtes tous formidables. Allez, vous pouvez continuer de poster vos réactions 33 1 84 22 71 71 et on attaque la présentation de soi-même.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Alors le matériel est très simple, hein, Gérard sans faute, il faut deux feuilles de papier et de quoi écrire.
C'est ça, une fiche, ça peut être une feuille A4 qui est pliée en deux, parce qu'on va, on commencera par faire une carte de visite. Avant de la commencer, je veux dire que même les plus jeunes, ils sont concernés parce que même s'ils n'arrivent pas à écrire, ils peuvent lire les phrases. Et un adulte, s'il y en a un à côté d'eux, peut écrire à leur place. Nous, on appelle ça la dictée à l'adulte. Ça se fait dans les petites classes. Le maître ou la maîtresse écrit au tableau sous la dictée des enfants. Et ça les concerne aussi.
Donc les grands frères, les tanties, etc., vous restez avec les plus petits pour pouvoir écrire à leur place les mots qu'ils vont vous dicter. Et c'est un exercice très important pour eux. Alors, on démarre.
Et ceux qui vont écrire, il ne faut pas qu'ils soient bloqués par l'orthographe. Aujourd'hui, là, ce qui va compter, c'est ce que vous allez écrire. Après, vous pourrez faire corriger l'orthographe aussi par quelqu'un d'autre, par un adulte. Moi, je ne vais pas vous faire corriger l'orthographe. Ce qui compte, là, c'est ce que vous allez écrire.
Bon, bah alors, déjà, ça va en déstresser certains.
C'est ça. Alors, on va faire une carte de visite, comme... quand des adultes se présentent. Là, c'est une carte de visite où ça sera écrit d'un côté et de l'autre, recto-verso. Donc, si vous prenez la première page, vous la mettez bien horizontalement et en plein milieu, vous écrivez votre prénom. Voilà. Comme ça, on sait que c'est vous.
Les enfants, je pense que vous avez peut-être eu l'occasion déjà de voir des cartes de visite ou dans des magasins. En général, au milieu, il y a le nom, le prénom, le nom de famille ou le nom d'un magasin ou peu importe. C'est l'information la plus importante, c'est de donner votre identité.
Voilà. Et sur cette carte de visite, vous allez mettre qui vous êtes, qu'on vous connaisse mieux. Alors, pour commencer la carte de visite, vous allez écrire tout en haut à gauche l'occupation, l'activité que vous faites quand vous êtes seul, ce que vous aimez faire, ce que vous faites avec un grand plaisir. Alors, pas forcément quelque chose que vous faites à l'école. Je donne des exemples. Ça peut être vous aimez lire, vous aimez danser, vous aimez jouer aux jeux vidéo, vous aimez chanter... Vous aimez courir. Là, je donne des idées pour que personne ne se dise « je ne trouve pas ».
Alors, voilà. Donc, on met une phrase ou on met juste un verbe ?
Ça peut être juste un mot.
D'accord, juste un mot. Par exemple, pour vous, je suis sûre, Gérard, il y aurait « Gérard écrit au milieu de la carte de visite et en haut à gauche pour l'occupation. Allez, au hasard, ça serait « vélo ».
Ah, faire du vélo, ça c'est
faire
une
du vélo.
De mes passions. Ah oui, ça je fais
d'accord.
Souvent. Alors ça peut être un seul mot. Donc vous écrivez un mot. Ceux qui n'ont pas trouvé, ce n'est pas grave. Là, sur la carte de visite, on va écrire à peu près 10 choses. Pour que ce soit réussi, il faut que vous mettiez au moins 5 réponses. C'est ça, parce qu'il y a certaines fois, on bloque, on ne trouve pas. Mais vous allez en trouver d'autres, ceux qui n'ont pas trouvé. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà trouvé.
Alors, l'occupation, donc en haut à gauche. Ensuite.
Alors, ensuite, en haut à droite, on va écrire le lieu, l'endroit où vous aimez aller. Alors, vous pouvez y aller seul ou avec des amis. Je donne des idées, par exemple, vous aimez aller chez un ami que vous aimez bien. Vous aimez vous isoler dans un endroit, ça peut être dans un coin, dans la chambre. Mais ça peut être,
ça peut être la forêt
endroit.
Aussi, se promener en forêt, un lieu qui vous inspire, où vous aimez aller. Donc,
voilà.
Ça peut être aller voir les grands-parents. Donc ça, c'était en haut à droite sur la carte de visite.
Voilà. Et on va continuer maintenant en bas à gauche. Alors, en bas à gauche, on va écrire le nom d'un objet que vous avez souvent avec vous, un peu comme votre objet fétiche. S'il y a quelque chose que vous aimez avoir avec vous, qui vous rassure, un peu comme un doudou, ou qui vous porte chance, un objet, je suis sûr, il y a des objets ou un peut-être particulièrement que vous emmenez avec vous et vous vous sentez bien quand vous avez cet objet. Voilà. Ensuite, sur votre carte de visite, on va finir de compléter le premier côté. En bas, à droite, on va écrire une qualité que vous aimez chez vous.
Oh, alors, ça c'est difficile, aimez... Gérard. Une qualité que l'on aime chez soi-même.
Ah oui, alors mais je me rappelle, mes élèves disaient « Ah, mais c'est se vanter que de dire sa qualité. Oui. » Mais il faut essayer de se forcer quand même, se dire « Je ne me vante pas, je pense que j'ai cette qualité et je sais que mes amis apprécient cette qualité. » Par exemple, je donne des idées, ça peut être la gentillesse, la générosité, ou on sait qu'on peut me faire confiance.
Alors ça, c'est bien pour les enfants qui recueillent des compliments, mais parfois il y a des enfants qui recueillent peu de compliments dans leur famille. Et donc, il faut qu'ils arrivent à savoir de quoi ils se sentent capables, peut-être aussi, comme qualité.
Mais quand on ne reçoit pas de compliments, peut-être qu'on sait dans soi-même qu'on a une qualité que les autres ne voient pas bien.
Et c'est tout le monde a des qualités, il faut bien le dire aux enfants.
Tout à fait. Et là, tout le monde a quelque chose à mettre.
Alors, donc là, on a bien mis l'occupation, le lieu, la qualité sur cette carte de visite, l'objet, bien sûr, l'objet qui nous tient à cœur, hein, avec lequel on se sent bien. Donc, on a bien mis déjà quatre réponses aux quatre coins de la carte de visite. C'est bien ça, hein, Gérard ?
C'est ça. Si on a été complet et si on a sauté quelque chose, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est mettre au moins cinq réponses quand on aura complété le verso de la feuille. Parce que maintenant, on va
retourner la feuille. D'accord.
On retourne la feuille pour compléter au verso. Alors, vous avez sûrement remarqué que pendant que vous écrivez, je donne plein d'idées. Parce qu'en classe, on fait comme ça aussi. On discute avec tous les élèves, ceux qui ont des idées. Les donnent, là c'est moi qui les donne un peu plus, mais quand on est en classe, les élèves donnent les idées, et ceux qui n'en ont pas, ils se disent « Ah mais moi j'ai la même idée », et ils prennent un peu les idées des autres.
Bien sûr.
À la fin, plus personne n'est bloqué.
Mmh. Donc, bien sûr, autour de vous, les enfants, s'il y a des gens autour de vous dans la maison, de la famille, des cousins, etc., demandez-leur des conseils si vous ne savez pas quoi écrire. Hein. Souvent, hein, les enfants disent « Maître, je ne sais pas quoi marquer sur ma fiche ».
C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a en classe, il y a une partie orale où on discute et tout le monde finit par avoir des idées. Donc c'est important d'écouter ce que disent aussi les autres. Comme ça, on n'est pas bloqué.
Alors, sur la fiche de l'autre côté, on a tourné la feuille et vous allez poser une série de questions auxquelles les enfants devront répondre pour mieux se faire connaître.
C'est ça. Donc vous allez mettre au verso ce que vous aimez. Alors vous écrivez en gros, tout en haut de l'affiche, ce que j'aime. 3 points de suspension. Et après, en dessous, vous verrez, vous allez écrire ce que vous aimez.
Alors, ce que j'aime, 3 points de suspension. Et évidemment, on va donc avoir une liste.
Oui, alors il y aura 6 choses à écrire. Vous ne serez pas inspiré par les 6 choses, mais il y aura 6 choses à écrire.
On démarre. Regardez.
La première, ce que vous aimez, regardez. Donc ça concerne la vue. Alors c'est ce que vous avez du plaisir à regarder. Alors qu'est-ce qu'on a on a du plaisir à regarder quoi? Ça peut être une personne.
Voilà, ça peut être des vidéos aussi.
Ça peut être des vidéos, ça peut être un objet aussi, comme tout à l'heure. On aime regarder un tableau ou une photo. On aime regarder un film.
Voilà, ça peut être un match de foot aussi. Hein.
Voilà, tout ce qui concerne la vue.
Ensuite,
alors en dessous, vous aviez écrit « regarder ». Maintenant, sur la deuxième ligne, vous allez écrire « ce que j'aime écouter ». Donc là, ça concerne l'oreille, l'ouïe. Par exemple, quelle musique vous aimez ? Peut-être que vous mettrez le titre d'une chanson. Ça peut être dans la nature, on aime écouter le bruit des arbres, le chant des oiseaux, le bruit d'eau qui coule dans la rivière.
Ça peut être des choses très très simples. Hein. Ne cherchez pas les enfants à trouver des réponses extraordinaires. Hein. Soyez le plus sincère avec vous-même, bien sûr. Donc, regardez, écoutez, les yeux, les oreilles, et ensuite ?
Et ensuite, alors, sur la ligne du dessous, ce que vous aimez toucher. Donc là, ça concerne le sens du toucher. Par exemple, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, le doudou que vous aimez bien sentir dans vos doigts. Ça peut être des cheveux. Passer les mains dans des cheveux, ça, vous trouvez ça très agréable parce que c'est doux. Ou autre chose qui, pour lequel vous avez un souvenir de grande douceur quand vous le caressez, quand vous le touchez. Ça peut être le nom d'un animal, même précis, un animal. Vous avez le souvenir d'avoir touché un animal et vous avez plaisir à le toucher. Ça peut être un liquide, de l'eau.
Finalement, voilà. J'ai l'impression, Gérard, que vous nous emmenez sur la piste des cinq sens. Regarder avec les yeux, écouter avec les oreilles, toucher avec les doigts.
Voilà.
Et ensuite
on va continuer avec le goût. Donc, ce que, sur la ligne du dessous, ouais. Ce que j'aime goûter. Alors, avec le sens du goût, ça peut être le plat préféré. Quel est votre plat préféré?
Ouais. Je crois que là, ça va être assez facile. Ça peut être le plat, donc ça peut être manger, boire, une boisson, un bonbon, peu importe. Je crois que là, ils vont vite comprendre. Et alors ensuite, donc ça c'est le goût. Et qu'est-ce qu'on a oublié dans les cinq sens? On en a 1, 2, 3, 4. Il en reste un pour faire les cinq plutôt.
Voilà, il reste l'odorat.
L'odorat. Avec le nez. Qu'est-ce qu'on sent avec le nez? Et qu'est-ce qu'on aime sentir, bien sûr.
Qu'est-ce que vous aimez sentir?
Bon, alors, si possible, un truc qui sent bon, évidemment, pas l'odeur des latrines. Donc, qu'est-ce que vous aimez sentir?
Alors, ça peut être un parfum d'une fleur précise, le parfum des fleurs, ou d'une personne. Ou alors, même, vous avez souvenir d'être allé dans un endroit et vous avez senti une odeur qui vous a été agréable. Donc, quelle odeur?
Mais ça peut être aussi une odeur de quelque chose qui se mange. Ça peut être, je ne sais pas, l'odeur de la vanille à Madagascar, pour ceux qui ont la chance d'avoir de la vanille. Que sais-je, ça peut être quelque chose qui est dérivé d'ailleurs du goût.
Il y a des bonnes idées comme ça. Et là, on a fait les cinq sens. Et je vais rajouter une chose pour vous présenter, parce que ceux qui vont regarder votre carte de visite, c'est certainement des gens qui veulent être amis avec vous. Et vous pouvez écrire la qualité que vous appréciez, surtout chez vos amis. Donc, si quelqu'un veut devenir votre ami, quelle qualité doit-il avoir? Tout à l'heure, vous avez parlé de la qualité, de votre qualité principale. Là, c'est une qualité chez vos amis.
Alors, il faut bien réfléchir là. Quelle est la qualité que vous aimez trouver chez vos amis? Ça peut être faire des blagues, bien jouer au foot, être sympathique. Réfléchissez bien. Donc, je vais réénumérer les cinq sens auxquels vous avez répondu. Ce que j'aime, regarder, écouter, toucher, goûter, respirer. Et ensuite, après les cinq sens, ce que j'aime comme qualité chez mes amis. Et on a bientôt fini de remplir cette fiche sur soi-même pour mieux se décrire.
Oui, la carte de visite, elle est maintenant terminée. Si vous n'avez pas tout mis, essayez d'en mettre au moins 5 que vous compléterez après pour ceux qui n'en auraient pas mis 5. Mais il en faut au moins 5, mais je suis sûr qu'il y en a qui en ont mis encore plus. Et ça, c'est un brouillon que vous pourrez après recopier, modifier.
Et bien sûr, les enfants peuvent faire des dessins à côté des réponses, bien sûr. Si vous avez une belle fiche à nous envoyer à la fin de la journée, on serait très très heureux de les recevoir sur notre compte WhatsApp et de les poster au 33 1 84 22 71 71. Vous avez encore une ou deux activités à proposer aux enfants pour qu'ils aient envie d'écrire, Gérard Sans Faute?
Oui, parce que jusqu'ici, on a répondu un peu de façon brève avec des mots. Là, il va falloir peut-être faire une phrase. Pour la suite, donc maintenant, notre fiche, elle est finie, elle est mise sur le côté. On prend une autre feuille et dessus, vous allez écrire « J'aimerais vous emmener ». Alors, vous pouvez reprendre le lieu de tout à l'heure. « J'aimerais vous emmener à quel endroit ?» Mais il faut nous dire « Pourquoi ?» Pour y faire quoi? Parce qu'il est comment? Disons que c'est un endroit que vous aimez donc particulièrement et que vous auriez plaisir à partager, mais il faut expliquer pourquoi. Donc là, pour réussir cette partie, il faut avoir répondu à la question pourquoi.
Donc si vous dites j'aimerais vous emmener voir des escargots en forêt, que sais-je, il faut bien expliquer pourquoi. Alors ensuite, Gérard, parce que vous savez que l'heure tourne à l'école, à la radio, c'est assez impitoyable. Hein.
Alors vous devez ensuite, en dessous, dire ce qui vous fait rire. Alors vous dites qui vous fait rire, ça peut être un clown, un comique, un film amusant, les histoires de mon frère, mais comme tout à l'heure, pour que ce soit réussi, vous mettez ce qui me fait rire, c'est par exemple les histoires de mon frère, il faut répondre pourquoi, parce que il faut donner la raison, pourquoi ça vous fait rire. Donc là il faut faire une phrase et à chaque fois dire pourquoi. Alors, ceux qui ne sont pas inspirés par ce qui me fait rire, ça pourrait être ce qui me fait peur. Vous dites, qu'est-ce qui me fait peur? Par exemple, sortir la nuit tout seul. Mes élèves, ils étaient en CM2 et ils disaient, j'ai peur d'aller au collège l'an prochain.
Ah oui, bien sûr.
Mais il faut dire pourquoi. Ouais. Pourquoi? Ben, peut-être, il faut dire la raison. Donc, comme
alors,
tout
certains enfants nous disent que certains contes que nous diffusons à l'école à la radio peuvent leur faire peur. Il faut dire pourquoi. Est-ce qu'il s'agit d'un fantôme en particulier? Du bruit qui passe dans le conte? Voilà. Donc, très important de donner une argumentation. Et puis, une dernière question aussi, Gérard.
Une dernière question, c'est qu'est-ce qui me met en colère? Alors, vous dites, ce qui me met en colère, c'est, au hasard, par exemple, une injustice souvent qui s'est passée. Il s'est passé ça, c'était pas juste. Et pourquoi ça vous a mis en colère? Donc, il faut faire une phrase complète. Donc, c'est plus difficile que la fiche. De la carte de visite de tout à l'heure. Là, on demande des phrases. Et pour que ce soit réussi, moi, comme c'est difficile, il faudrait écrire au moins une phrase pour ceux qui sont un peu plus grands.
Alors, je résume.
On ne peut pas faire les quatre.
Pour les trois réponses, ce qui me fait rire, ce qui me fait peur, ce qui me met en colère. Et à chaque fois, les enfants, vous expliquez bien pourquoi. On va terminer sur une phrase trésor à rechercher, Gérard Sans Faute.
Oui, c'est ce que je faisais, moi, dans ma classe à la rentrée scolaire. On cherchait une phrase trésor qui allait donner du courage pour toute l'année scolaire. Et les élèves, ils la recopiaient, ils la mettaient dans leur classeur. Et même nous, on choisissait, on votait dans la classe, on en affichait une grande, en gros, dans la classe.
Oui, une phrase qui peut inspirer les autres camarades, donc, finalement.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Vous vous souvenez des phrases que vous avez affichées dans votre classe?
Oui, il y en a qui écrivaient « Tu y arriveras ». Parce que l'élève, quand il était dans un moment difficile, après, il relisait sa phrase, il ne réussissait pas un exercice, et c'était marqué « Tu y arriveras ». Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois. Ça lui donnait du courage. Une autre phrase, par exemple, c'était « Aujourd'hui, c'était difficile, demain, ça ira mieux ». Voilà, c'est pour savoir que certains jours, on a plus de difficultés, mais on garde le moral pour après. Y en a qui avaient écrit aussi « Regarde devant toi ».
Ça
veut dire ne pas penser à ses soucis, à soi, mais regarder devant, qu'est-ce qui peut être bien.
Alors ça peut être une phrase trésor que vous avez trouvée chez quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Ce qui est important, c'est de l'écrire sur une feuille et puis de l'afficher, scotcher, de pouvoir la voir fréquemment, notamment quand vous travaillez pour l'école.
Voilà, oui.
Pour ceux qui vont reprendre l'école, Gérard, ils peuvent venir avec leur fiche pour se présenter et proposer cette activité, non?
Ah ben, s'ils font leur fiche, leur carte de visite et même la deuxième activité, s'ils retournent dans leur classe, ils peuvent lire ça à toute leur classe et même, je dirais même, à la rentrée prochaine.
Oui, exactement. Et proposer, bien sûr, aux autres de faire la même chose pour croiser un peu les réponses. Gérard Sans Faute, on a bien compris comment parler de soi, mais il faut se creuser la tête, bien sûr. Et surtout, les enfants ont compris que tout le monde a des choses intéressantes à dire. Je voudrais vous lire le message d'une auditrice, Saoli, qui est à Madagascar. Vous savez, on pose souvent la question dans cette émission, à quoi servent les savoirs scolaires que vous utilisez ensuite dans votre vie de tous les jours, dans votre métier. Et puisque là, vous nous avez fait une leçon sur le langage, sur des choses très très simples pour des enfants jeunes. Saoli nous dit, à quoi servent les matières étudiées en classe primaire? Je voudrais parler de la langue française, de la grammaire, de la conjugaison. Grâce à tout cela, je peux écrire des rapports d'activité aujourd'hui, bien formuler des lettres d'invitation à des réunions. Je peux parler en français parce que je suis technicienne en environnement. Si je n'avais pas bien étudié, j'aurais des difficultés. Alors, bon courage les enfants. Voilà, ça peut être aussi une phrase trésor qu'on peut afficher. Gérard, vous savez que vous avez un engagement à tenir. On va vous retrouver bientôt pour une prochaine leçon dans quelques jours. Je sais que vous êtes un passionné de vélo, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure sur la carte de visite. Et vous nous avez promis de préparer pour les enfants une séquence sur le voyage à vélo. C'est prévu, hein ? Vous ne reculez pas devant l'obstacle, hein ?
Non, il faut que je finisse de préparer, de réfléchir un petit peu.
Ouais, je suis sûr que vous... Oui, et puis vous allez parvenir à glisser un petit problème de mathématiques dans ce voyage à vélo, à mon avis, non ?
Ah bah sûrement, oui, parce qu'on peut associer des problèmes au voyage, bon. Et je parlerai de voyages que j'ai fait.
Alors au travail pour l'école à la radio pour la prochaine séquence avec vous, et merci mille fois Gérard Sans Faute. Dans quelques instants, l'histoire de Motté le petit footballeur, mais tout de suite Flavia Coelho, Bossa Muffine.
Num dia de chuva ele disse, tem que ter, jogar com a sorte. Coragem, com um braço forte, jogar com a sorte. Consigo conquistar com um braço forte, jogo com a minha sorte. Consigo conquistar com um braço forte, jogo com a minha sorte. Não vale a pena explicar, você vai achar que ele é um vagabundo. Decidiu viver e viajar e conhecer o mundo. Não vale a pena explicar. Que aprendeu na marra, na mata, com um índio guarani do terceiro mundo. Foi na África, viu Bangladesh, dormiu com o deus Ganesh. Ficou intrigado, quis ver com seus próprios olhos um arco-íris. Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos, que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Consigo conquistar com...
C'est l'heure du compte, l'école à la radio, 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Message de Sylvania et Patrick de Calavi au Bénin à propos des comptes. Bonjour Tata Héloïse, voilà, c'est un message spécial pour Héloïse Auréa. Merci pour l'école à la radio que nous suivons avec grand intérêt, nous t'embrassons. Et un bisou à vous tous. Et tout de suite, Motté le petit footballeur, inspiré d'un conte camerounais, écrite par Anselme Djekam et racontée par Héloïse Auréa.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois
Motté, le petit footballeur. Un conte d'Anselme Djekam. Collection Contes des Quatre Vents aux éditions L'Harmattan. Djega et son ami Moukam reviennent de la forêt accompagnés de leurs chiens. Ils sont sortis très tôt pour aller visiter les pièges qu'ils y ont tendus. Ils n'ont trouvé qu'un rongeur et Moukam le porte dans sa gibecière. Aujourd'hui, c'est le jour de la finale du championnat de football intervillage des jeunes. Et les jeunes de leur village sont qualifiés. Cet après-midi, ils seront au stade pour assister au match et soutenir leur équipe qui a été qualifiée. Pendant ce temps, au village, un couple d'étrangers arrive. Ils sont accompagnés de leur fils. Ils portent de lourds bagages et semblent fatigués. Leur entrée dans le village attire l'attention des habitants. Deux femmes vont à leur rencontre et les déchargent de leurs bagages. Les deux amis vont aussitôt à la rencontre du garçon qui est avec le couple d'étrangers. Ils sont curieux de savoir d'où il vient et comment il s'appelle. Moi, c'est Djuga, et voici Mukam. Comment tu t'appelles ?
Moté,
leur répond le jeune garçon. Les étrangers sont conduits à la chefferie. À leur entrée, le tam-tam retentit. Les villageois se réunissent sur la grande place. Le chef et les notables sont présents.
« Soyez les bienvenus !» dit le chef.
Il veut savoir ce qui les amène dans le village, mais il s'aperçoit qu'ils sont très fatigués. Alors, à sa demande, une femme du village leur apporte un bol d'eau et des bananes bien mûres.
« Rafraîchissez-vous et mangez. Prenez votre temps !» leur dit le chef.
Après avoir mangé et s'être rafraîchi, les étrangers expliquent qu'ils ont quitté leur pays en guerre et ils demandent asile dans le village. Préoccupés par leur situation, le chef ordonne qu'on achève la construction de l'une des cases en chantier derrière la chefferie afin d'y loger les étrangers. Tous les hommes du village se mettent au travail. Pendant que les hommes sont occupés à aménager la case, les femmes cuisinent pour le festin qui aura lieu le soir en l'honneur des nouveaux venus. Djuga et Mukam invitent leur nouvel ami à venir jouer avec eux. Après l'avoir présenté à leurs familles respectives, ils vont à la cuisine nettoyer le gibier. Mukam est allé chercher une feuille de bananier sur laquelle l'animal sera dépecé. Le chien, assis dans un coin, attend les boyaux pour s'en régaler. Moté raconte alors son long voyage à ses amis. Le repas fini, ils vont dans la clairière derrière le village assister à l'entraînement de l'équipe du village. Arrivé sur les lieux, Moté explique à ses amis que dans son village, il était un très bon joueur et marquait souvent de beaux buts. Djuga demande à l'entraîneur de laisser Moté jouer avec eux. Celui-ci accepte. Devant les performances et la maîtrise du ballon de Moté, l'entraîneur l'inscrit sur la liste des remplaçants pour le match du soir. À l'heure de la rencontre, tout le village est présent au stade. Le match va se dérouler sous l'autorité du chef. Il a invité le couple d'étrangers à assister à la rencontre. Les deux équipes entrent sur le terrain. L'équipe adverse est déterminée. Et dès le coup d'envoi, ils prennent l'avantage et mènent à la mi-temps par 1-0. Voyant Moté assis sur le banc de touche, son père, qui connaît son talent, va voir l'entraîneur à la mi-temps. Il lui explique que l'entrée de Moté sur le terrain pourrait sauver la rencontre. Mais l'entraîneur est sceptique et préfère faire jouer les titulaires. Un quart d'heure après la reprise, l'entraîneur qui ne voit pas son équipe égalisée décide de faire jouer Moté. Dès son entrée, le match prend une nouvelle allure. Moté déstabilise la défense adverse. Il inscrit le but d'égalisation et avant la fin, il marque le but de la victoire. Moté brandit le trophée en compagnie de ses amis. C'est la joie dans le cœur des villageois. La fête sera belle ce soir.
À la mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Auria. Moté le petit footballeur est inspiré d'un conte camerounais écrit par Anselme Djokam et publié dans la collection Contes des quatre vents aux éditions L'Armatan. Et quant à nous, dans quelques secondes, on retrouve notre meilleur attaquant dans la surface de réparation, le coach Didier Akwété.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Alors, vous êtes bien dans la surface de réparation, Didier Akwété ?
Je suis prêt à marquer. Je suis un ancien footballeur, Emmanuel. Vous ne le savez sans doute pas.
Eh bien non, je n'en doute pas. Vous parlez donc, cette fois-ci, vous allez faire gagner les entreprises sur le continent africain. Et elles en ont besoin. Aujourd'hui, comment gagner des clients en misant sur la différenciation après la crise? Parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont souffert pendant la crise et reviennent progressivement sur le marché. Déjà, peut-être expliquez-nous ce que c'est qu'une stratégie de différenciation.
C'est relativement simple. Vous savez, en marketing, c'est ce qui vous permet de vous différencier de vos concurrents, c'est-à-dire de proposer un produit ou un service qui permet à vos clients de vous reconnaître comme étant spécifique, particulier et différent de vos concurrents. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a trois caractéristiques. C'est d'abord que cette différenciation doit être significative. Il faut que ce soit une vraie différence, quoi. Deuxièmement, il faut que ce soit économiquement viable, parce que si vous êtes différent mais vous ne gagnez pas de l'argent, c'est un peu compliqué. Et puis troisièmement, que vous puissiez défendre cette différenciation sur le long terme, sinon vous avez peu de chances également de garder vos clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de réussir son positionnement, oui, sur un marché ou son repositionnement.
Je vous vois souvent vous gratter la tête. Oui, quand vous coachez de jeunes entrepreneurs, des startups dans l'émission, je vous vois souvent vous gratter la tête quand vous leur posez la fameuse question. Mais c'est quoi votre différence et votre différenciation? Donc bien les trois points, elle doit être vraiment visible et significative, viable économiquement et évidemment, elle peut se défendre sur le long terme. Ça y est, j'ai bien retenu moi en tout cas.
Effectivement. Alors, ce sont des prérequis.
Quel type de stratégie de différenciation on peut imaginer? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets?
Oh, il y en a plein, mais je vais peut-être, vu le temps qui nous est imparti, peut-être en prendre 4 ou 5, avec peut-être des produits qui parlent à tout le monde. Une différenciation, par exemple, qu'on appelle par sophistication. Bon, c'est une stratégie en fait, qui consiste à proposer des produits et services à des prix qui sont généralement supérieurs à ceux de la concurrence, mais en contrepartie, vous avez des produits de qualité, vous avez un design qui est unique, vous avez des produits qui sont fiables, qui sont robustes, avec beaucoup de services. Et vous voyez, quand on parle de smartphone, je n'ai pas besoin de citer les marques, mais tout le monde voit tout de suite de quoi je parle, pour dire qu'il y a une ou deux marques qui sont dans cette stratégie de différenciation par la sophistication.
Donc, ça, c'est un exemple. Donc le haut de gamme, quoi, finalement, et généralement, les prix vont avec, malheureusement.
Exactement. Et pourtant, vous voyez, quand on lance les nouveaux modèles, les gens font des queues toute la nuit pour les acheter. Oui. Vous voyez qu'ils ont réussi réellement à montrer qu'ils sont différents par la sophistication. Deuxième stratégie, on peut parler de stratégie différenciée par les services. Vous savez, il y a des produits qui sont ce qu'on appelle en marketing des produits MeToo. Prenons l'exemple, d'une agence de voyage. Les agences de voyage sont concurrencées par les agences en ligne et une agence de voyage aujourd'hui n'apporte réellement pas de grande différence. Mais si une agence s'entoure de services, elle peut-être survivre. C'est-à-dire qu'on vous appelle l'agence, quelle est sa réactivité? Comment peut-elle vous trouver le meilleur routing? Et moi qui voyage beaucoup, comment elle vous trouve le meilleur tarif? Avec quelle compagnie? Et peut-être en termes de services à valeur ajoutée, peut-être vous proposer qu'on vienne vous récupérer à l'aéroport avec une voiture privée, qu'on vous assiste à l'aéroport pour vos formalités. Donc, elle va ajouter des services pour montrer qu'elle est différente des autres. Et c'est peut-être des choses que vous ne trouverez pas dans toutes les agences avec un positionnement prix qui va avec. Donc, il faut multiplier les services lorsque c'est vraiment des marchés MeToo sur lesquels vous avez beaucoup trop d'acteurs. Il y a une stratégie également qu'on appelle la différenciation par épuration. Alors ça, c'est peut-être pas pour les petits commerçants, pas forcément. Mais en fait, l'épuration consiste à proposer des produits très simples à des prix qui défient toute concurrence. Simplement, vous épurez les services un peu superflus, les services un peu inutiles, et vous ne gardez que ce que le client recherche. Exemple, les voyages. Vous connaissez les compagnies low cost, et vous avez dû en prendre. EasyJet en Europe, par exemple, très connu, mais en Afrique du Sud.
Alors, les compagnies en ce moment, elles vont pas très bien. Je ne sais pas quelle stratégie elles vont imaginer, mais.
Exactement, c'est ça qui est intéressant, parce que dans le contexte actuel, vous voyez, c'est des compagnies qui marchaient très bien, mais avec cette crise, on ne sait pas ce qui est pour en suivre, donc on ne sait pas si cette stratégie est défendable sur le long terme, comme je disais dans l'introduction. Donc, vous avez tout compris, Emmanuel.
Mais alors, la stratégie d'épuration, en général, ça conduit plutôt à une baisse des prix, là, pour le consommateur.
Bah, bien sûr. Hein, c'est une stratégie de baisse des prix extrêmement forte parce qu'on enlève
pour
les services.
Pour avoir l'essentiel.
Exactement. Et vous savez d'ailleurs, quand on est dans les villes africaines, vous voyez ces espèces de transports urbains, ces espèces de minibus dégueulasses.
Comment ça
surchargés.
C'est un service essentiel.
Exactement, mais les gens le prennent parce que le prix est bas. Vous pouvez prendre un point A, un point B, et vous payez un prix pas cher du tout, et ça fonctionne.
C'est ça, donc voilà, c'est la stratégie de l'épuration. Très bien, mais là, tout de suite, ça fait plus chic. Hein. Bon. Alors, la sophistication, les services, l'épuration, donc l'essentiel, et puis, quatrième exemple.
Je vous en ai deux autres, ce qu'on appelle la différenciation par spécialisation. Alors, c'est une stratégie qui permet de se positionner sur un segment de marché particulier, et puis de limiter un peu la concurrence, quoi. Et on le voit beaucoup actuellement dans des secteurs comme la mode, l'agroalimentaire, ou même la musique. Vous savez, il y a par exemple une plateforme de streaming musical qui vient de se lancer à Abidjan, qui s'appelle Ro, qui ne propose que de la musique africaine. Donc, il se spécialise sur les segments de la musique africaine. Ou lorsque vous allez dans le secteur de la mousse, on avait fait une émission à Dakar avec une styliste sénégalaise qui ne proposait que des vêtements à base de produits africains, de matériaux africains.
Oui, naturels.
Des vêtements très sophistiqués.
Des fibres naturelles. Ouais. Là, c'était très spécial. Exactement. Oui, c'était très spécialisé, effectivement.
Exactement. Donc, c'est une stratégie de spécialisation.
Alors, évidemment, plus on est spécialisé, plus on est sur un marché de niche avec peu de clients. Donc, vaut mieux arriver à vendre cher, hein, j'imagine.
C'est ça, donc positionnement prix un peu plus élevé, ou alors ce style de streaming musical, vous n'êtes pas obligé d'avoir un prix élevé puisque vous misez sur le volume.
Oui.
Donc en l'occurrence, vous pouvez faire la spécialisation en misant sur du volume et puis de la spécialisation en misant sur de la niche. Et puis peut-être dernier exemple, la différenciation par la marque, donc, qui est assez connue, hein, c'est-à-dire...
Oui. C'est 7 milliards de voisins, par exemple. Hein.
Ouais. Et par exemple, RFI, par exemple, ou alors, vous savez, une fameuse marque de boissons de soft drink avec une marque rouge, une boisson marron, tout le monde voit tout de suite, ou une marque de chaussures de sport où le logo, c'est une virgule.
Mais, ouais, mais là, c'est quand même une longue route, hein, quand même, pour établir une marque dans la tête.
Beaucoup de moyens.
C'est ça, beaucoup de moyens et une longue route.
Beaucoup de moyens en communication.
Est-ce que parfois, je me mets à la place des entrepreneurs qui vous écoutent, Didier, à côté, est-ce qu'il faut chercher à cocher toutes les cases, toutes ces stratégies, ou en tout cas à cocher plusieurs cases entre la sophistication, les services, l'épuration, l'essentiel, la spécialisation, la marque?
C'est difficile de cocher toutes les cases, mais on peut combiner des cases. Vous voyez, vous pouvez être dans la sophistication avec de la marque. Vous voyez, vous pouvez être dans la différenciation avec une stratégie de prix qui sera une stratégie agressive, comme l'exemple que j'ai donné sur cette plateforme de musique ou alors cette grande marque de boissons gazeuses. C'est pas forcément un produit cher. Pourtant, ils investissent énormément, mais ils font du volume et donc se rattrapent sur le volume. Donc, on peut combiner ces stratégies, mais il ne faut pas forcément chercher à cocher toutes les cases, sinon c'est très difficile à défendre, parce que vous vous souvenez en introduction, il faut défendre la stratégie sur le long terme.
Alors justement, dernière question Didier Akwété, la différenciation, est-ce que ça peut constituer une réponse pour l'après-Covid en quelques secondes?
Ah, probablement, parce que certaines entreprises auront du mal à se repositionner, on a parlé de repositionnement, et parce que les clients ont changé aussi, parce que les concurrents ont changé de stratégie, donc il faut regarder justement la stratégie de différenciation qu'on vous revenait, parce que c'est ça qui finalement va vous permettre de revenir sur le marché, de vous distinguer des concurrents, et puis finalement de garder
vos clients. Et pour ça, il faut se mettre au boulot. Hein. Merci beaucoup Didier Akwété. Vos chroniques sont aussi de bonnes fiches pratiques pour les étudiants en gestion et commerce. Hein. Je trouvais pour les jeunes entrepreneurs, bien sûr, vous postez vos questions à Didier Akwété à partir de vos cas concrets qui nous inspirent et de votre situation. Posté sur notre compte WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Demain, suite de l'école à la radio, on sera avec Gervais Lohembé, le passionné de science. Merci à vous tous, les voisins, les voisines. À demain.
Tante Dionke.